Henry Folk, L'âge de plomb. Chapitre 1. Une inconcevable épidémie. Il demeure irréfuté que l'on jouit, au Gabon, d'une température élevée, et il n'est pas moins assuré qu'on y coule de paisibles jours, exempt de la trépidation ridicule de notre vie européenne. Libreville, chef-lieu de la colonie, est un délicieux port de mer, avec ses pittoresques cases en bois d'aloès et de palétuvier, entourées de jardins foisonnants d'une végétation débordante, où dominent le cactus, le lentisque, la joubarbe et le bokabunga. Des édifices s'élèvent aussi, construits à l'usage des Blancs, mais dans le goût indigène. La banque est un bel immeuble de briques roses orné d'écorces de génestrol et le palais du lieutenant-gouverneur, une jolie maison tricolore en pierre de pépérino, aux racines de calembour et cœur de caroubier. Autour de la cité, des pâturages s'étendent qui nourrissent un bétail nombreux, notamment des troupeaux de buffletins dont l'entrecôte braisée aux oignons du Congo fait le régal des voyageurs. Entrecoupant les prairies, des bois d'eucalyptus et de cocotiers s'allongent où s'ébattent le cacatois, le becfig et le ouistiti. Parmi les hautes herbes, pullulent le crotal et la musaraigne. Les naturels des villages sont d'un caractère doux et gai, d'une couleur noire éblouissante. Ils ne sont pas plus cannibales que le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Tout semble donc, en ces lieux bénis, respirer la douceur de vivre. Et tout l'a respiré, en effet, quand un étrange concours de circonstances s'avisa, le 21 mars 1900 à 17h45, de troubler l'inquiétude pourtant légitime de M. Parmesif, lieutenant-gouverneur de la colonie. Sous la véranda aux vitrages bleutés, aux baies judicieusement ouvertes sur l'ombre et la fraîcheur du jardin, monsieur le lieutenant-gouverneur et son fidèle secrétaire, l'élégant monsieur Saumêtre, tous deux en complet de toile blanche, buvaient à langue sucée de chalumeau d'exquises citronnades glacées. Dans l'intervalle des sucions, il fumait d'odorants cigares. Et, soit suçant, soit fumant, au balancement de leur rocking chair, ces messieurs, béats et muets, ne songeaient à rien. Leur silence léger de pensée fut soudainement déchiré par les cris, les sanglots et l'irruption heurtée de Mademoiselle Lotte Parmesif, âgée de 7 ans. La fillette tenait un paquet bizarre, une sorte de boule de chair flasque qu'elle jeta sur la table aux citronnades. La boule se détendit. Des pattes, une tête en jaillirent. Et un affreux petit être sans nom se mit à bondir par la pièce. Cependant, l'hôte s'était blottie, pleurante, dans les bras de son père. Et elle gémissait. Adolphe, Agathe, papa, comme il est, Adolphe. Et le lieutenant-gouverneur reconnut alors dans la bestiole bondissante le jeune Adolphe, sapajou favori de l'enfant. Attrapez, attrapez, son maître. L'élégant secrétaire bondit à la suite du minuscule quadruman et le cueillit sur un porte-manteau par la patte à monocle. « Qu'est-ce qu'il a donc, ce singe ?» demanda-t-il à son tour. Tandis que l'animal, tremblant, roulait des yeux égarés. « Il a, déclara Parmesif, qu'il perd ses poils, parbleu. » Et il arracha quelques touffes qui tapissaient encore le creux des cuisses d'Adolphe, aussi facilement qu'on retire les barbes d'un fond d'artichaut trop cuit. Le sapajou ne résista pas, ne cria pas. il semblait n'éprouver aucune douleur. Il se bornait à grelotter tout en claquant stupidement des mâchoires. Mademoiselle Lotte se mit à hurler. Allons, calme-toi, fit son père. Si Adolphe est malade, nous le soignerons. Comme il séchait les pleurs de l'enfant, Madame Parmusif entra en coup de vent. C'était une belle grasse dame, à l'épaisse chevelure blonde, aux sourcils et au visage quelque peu peinturluré, et vêtue d'un kimono jonquille. Elle était suivie d'un chien énorme. Elle semblait très excitée. « Gustave, fit-elle avec violence, vois un peu Top. » Monsieur Parmusif constata que l'épagneul de sa femme perdait ses poils aussi abondamment que le sapajou de sa fille. « Oui, poursuivit Madame Parmusif, Top et Adolphe, peux-tu m'expliquer cela ?»« Quelque pelade contagieuse, opina-t-il. » Il achevait à peine ces mots qu'un phénomène plus étrange requit la stupéfaction. Par une baie ouverte du plafond vitré, venait de choir un oiseau que ses ailes ne soutenaient plus, car il se trouvait à peu près déplumé. Presque en même temps, Sokota, la servante congolaise, entra dans la véranda. Elle apportait, en pleurant, une cage, à coup sûr, le plus ridicule perroquet du monde. Kiko avait cessé d'être le splendide hara multicolore du perron. Il ne lui restait plus qu'une rangée de plumes bigarrées sur la tête et au croupion. De sorte qu'avec ses yeux ronds, son teint de chair brique, sa rangée de plumes au chef et son criaillement guttural, il ressemblait à une grotesque et infime caricature de peau rouge nue sur le sentier de la guerre. La jeune Lotte hurla de plus belle. « Allons, Sokota, dit M. Parmusif d'un ton impatienté, promène l'enfant, nous avons à causer. » Le courrier, monsieur le lieutenant-gouverneur. « Merci, Saumaître. Ah, bien. Ah, ça, c'est fort. Et cette lettre encore, et celle-ci, lisez. » La belle Madame Parmusif et l'impeccable Saumaître saisirent les papiers que leur tendait la main fébrile du lieutenant-gouverneur. Et ce fut à leur tour de rouler un arpège d'exclamations. Il résultait de la correspondance venue de Libreville et des environs que tous les animaux de la terre et des airs perdaient leurs plumes ou leurs poils à des vitesses variables, mais à un égal degré, celui de la chute totale. Sans aucun motif apparent, les bœufs, les brebis, les chevaux, les chiens, les chats, les porcs, les lapins, dans les fermes, toute la volaille, dans les basses-cours, les bêtes de luxe dans les maisons, les bêtes sauvages dans les bois, se transformaient à vue d'œil en supernudité, si l'on peut ainsi dire, aussi malheureuse que baroque. Parmusif, le pouce au front, réfléchissait. Il s'écria violemment. « Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une vraie conspiration des bêtes. Nous qui étions si tranquilles. Il va falloir enquêter, réclamer des rapports, en produire. Que pensez-vous de cette affaire, Saumaître ? » Le parfait secrétaire répondit avec déférence. « Elle semble devoir attirer l'attention. » « Entrez !» cria Parmusif. Le noir maître d'hôtel se montra plusieurs dépêches à la main. Le lieutenant-gouverneur les ouvrit anxieusement. Il lut à voix haute. De Nadjali, commissaire maritime à lieutenant-gouverneur, signale pluie d'oiseaux plumés sur la côte. prièrent de télégraphier instruction. De Nyanga, intendance. Troupeau, bétail administratif, victime, pelade générale. Prière, envoyé d'urgence, vétérinaire officiel. De Mayuniba, plantation caoutchouc en danger. Recroquevillement général, végétation du district. Attendons vos ordres. De Lastourville, épidémie dans parc. Autruche se déplume. Télégraphier consultation. Et des plantations de Franceville. Bananier souffre, cocotier meurt. Envoyer secours d'urgence. Madame Parmesif demanda, pâlissante, « Les cocotiers? Les bananiers? Oh !»« Oui !» exclama son mari cramoisi. « Les plantes s'en mêlent à présent. Tonnerre, son maître, qu'est-ce que cela veut dire ?»«
Je l'ignore, monsieur le lieutenant-gouverneur. »
Mais derrière la porte, des éclats de voix s'élevaient. Deux noirs discutaient âprement.
« Moussier, tenant gouverneur, pas visible, » déclarait le maître d'hôtel. « Moi, y en a parlé aux gens, » protestait une autre voix que Parmesif reconnut pour celle d'un de ses vieux fermiers. Il sonna. « C'est Bouffalabé, n'est-ce pas? Introduisez-le. »
Un nègre aux cheveux blancs entra, son chapeau de paille pointu à la main. Il avait soigné sa mise. Montrait une jaquette bleue, un pantalon kaki, une cravate de cretonne rouge. Des gants jaunes compensaient la nudité grise de ses pieds. Sur son gilet brillait une chaîne de montre sans montre. Il commença sans autre préambule.
« Monsieur gouverneur, les bœufs, il y en a qui perdent leur peau. »
Leur peau, bafoue l'abbé. Leur poil, tu veux dire.
Non, non. Il y en a tombé poil d'abord. Il y en a maintenant tombé la peau, comme ça. Et le vieux noir fit le geste de détacher sur son bras un long morceau d'épiderme.
Ah, pour le coup, son maître, voulez-vous téléphoner à M. Réminiscent de venir me voir immédiatement?
Très bien.
Tandis que son secrétaire se dirigeait correctement vers l'appareil téléphonique, Parmesif s'était accoudé au balcon de la véranda. Il vit sa petite fille ainsi que la négresse immobile dans le jardin et qui contemplait le sol comme pétrifiée. Il s'émut de cette attitude, mais son émotion s'accrut comme il jetait machinalement un regard circulaire au dehors. Il appela sa femme. « Chérie, venez donc voir. » Madame Parmesif accourut. Il poursuivit. « Observez les arbres. Tenez, notre beau magnolia. Les touffes ne vous semblent-elles pas desséchées, comme brûlées ?»«
Mais oui, » fit-elle d'une voix oppressée. « Ni ses feuilles, ni celles des autres arbres n'ont plus leur teinte naturelle. »
On dirait qu'elle meurt, qu'elle se racornisse pour mourir.
Oh, mon ami, il se passe autour de nous des choses extraordinaires.
Et Lot et Sakota, qu'ont-elles donc?
Elle appela sa fille. L'enfant leva la tête et se jeta éplorée dans le sein de sa bonne négresse. Elle serrait une poignée d'herbes sèches.
Madame Parmesif, très inquiète, ordonna « Arrivez vite !» Elles accoururent et la petite Lotte, le visage inondé de larmes, tendit à sa mère une touffe de fleurs jaunies.
« Maman, vois comme elles sont devenues !»
En effet, les fleurs, hier encore, même tout à l'heure, vivantes, colorées, odorantes, n'étaient plus que des spectres.
« Sont comme ça pas tous les fleurs, » dit la négresse. « Sont tous malades, vont mourir. »«
Gustave, Gustave,
j'ai peur. »
Parmesif signifia à sa femme de se taire, car leur fillette les regardait terrifiée. Il promit à l'enfant une grosse noix de coco et elle partit consolée. Seule avec Madame Parmesif. « Tu veux donc frapper l'esprit de cette petite ?» Elle répondit. « Je suis moi-même épouvantée. » Il reprit d'une voix agitée, du calme. Tous ces phénomènes fantastiques ont nécessairement une cause explicable. D'ailleurs, voici le vétérinaire. Chapitre 2. Le diagnostic réminiscent. Monsieur le vétérinaire officiel réminiscent arriva, trottant, essoufflé, suant. Il était le voisin du lieutenant-gouverneur, et tout en baisant la main tristement tendue de Madame Parmesif, il expliqua qu'il s'échappait entre deux consultations. C'était un court gros homme, à barbichette noire, au teint rouge et couperosé, manifestement buveur. Un éventail tressé de petites rides s'élargissait depuis ses petits yeux. Il roulait des airs à broyer des briques, et le bout jaune de ses doigts s'impatientait visiblement de ne pas pincer une cigarette. « Excusez-moi, déclara-t-il, de ne rester qu'un instant. Mon cabinet est envahi. Outre mon aide, ma femme et mes trois filles, j'ai ma nièce, la tante Anaïs et le petit du fruitier qui travaille dans mon officine à pilonner des pommades, à mixturer des badigeons. Bien. En un mot, monsieur Réminiscent, expliquez-nous.
Il s'agit d'une épidémie ?
Pas précisément.
D'une épizootie.
Soit. Savez-vous qu'elle s'étend beaucoup plus loin que vous ne pensez ? J'ai ici des rapports, des lettres, des dépêches. Elle affecte à peu près toute la colonie.
Diavolo !
Il convient donc de prendre des mesures immédiates. Mais pour les prendre, il faut savoir la cause.
Je l'ai trouvée.
Oh, dites, supplia Madame Parmesif.
Eh bien, voici. La peau des animaux contagionnés tombe en plaques, en lames. C'est une descamation par lambeaux. En conséquence, une sorte de mue.
Eh bien ?
Eh bien, nous sommes au pays des serpents. Petits et gros, ils foisonnent à la campagne et même en ville. Pas plus tard qu'hier, j'ai trouvé une couleuvre sommeillant sur mon paillasson. Or, nous sommes à l'époque de la mue des serpents. Cette mue est devenue contagieuse. Voilà tout. Un silence voilé de stupeur accueillit cette révélation. L'auditoire réfléchissait. Monsieur Saumêtre, avec beaucoup de révérence courtoise, objecta « Ce serait bien la première fois.
Peut-être. Mais en matière de science, il ne faut désespérer de rien. Cet épizootie m'induit à inférer que la mue chez les ophidiens est d'origine microbienne. Et le microbe de la mue vient de se révéler nocif. Quelques animaux ont dû consommer des bouts de peau de serpent traînant dans les coins. Ils ont mué à leur tour. D'autres ont mangé de leur peau, ou même, sans la manger, ont absorbé par les poussières de l'air ou de toute autre façon des pellicules contaminées. Vous n'ignorez pas combien, par exemple, la fièvre scarlatine est contagieuse chez l'homme en période de descamation. La mue est à l'évidence une sorte de fièvre analogue, car elle s'accompagne au début, chez les bêtes, d'une élévation de la température et d'une congestion du pharynx. Il ne reste plus qu'à identifier le microbe de la mue dont je retiens déjà le nom, Bacillus reminiscens. Or, cet infiniment petit s'est accusé d'autant plus virulent qu'il agissait pour la première fois.
De là, le développement foudroyant de l'épizootie. J'ai composé des pommades, des onguents, thérapeutiques de fortune. Ce qu'il faut, c'est un sérum, puis un vaccin prophylactique. Nous les trouverons. C'est une grosse question. Et il se claqua joyeusement la cuisse. Mais, fit Madame Parmusif, les oiseaux.
Les oiseaux béquettent, picorent sur le sol.
En outre, n'oubliez pas que certains oiseaux muent aussi.
Ils perdent leur plume et non leur peau.
Différence de degré, question de plus ou de moins. Voici qui va vous convaincre. J'ai fait usage de la méthode expérimentale, très recommandée en science. J'ai pris deux canaris. À l'un, j'ai fait absorber de la peau de serpent par le bec. À l'autre, non. Le canari sujet a perdu ses plumes et sa peau deux fois plus vite que le canari témoin. C'est péremptoire.
Avez-vous ici des animaux malades ?
Il y a d'abord ce pauvre top, soupira Madame Parmusif. Voyez, presque épilé.
En effet, il n'est pas joli. Et même sa peau commence à se décoller.
Parfait. Même traitement que les camarades. Application de réminicine, ma pommade. Pour les grosses bêtes, monsieur le gouverneur, badigeonnage au pinceau de Réminiscol, mon liniment. Vous trouverez ces produits chez moi.
Pas de remède interne?
Un peu plus tard, quelques bonnes purges.
Monsieur le gouverneur, madame, vous m'excusez, je me dois à mes concitoyens.
Encore un instant. Et les plantes? Comment expliquez-vous leur dépérissement?
Ceci n'est pas de ma compétence. Il faut vous adresser à l'herboriste.
Je crois, pour ma part, au méfait d'un insecte analogue au phylloxéra que je n'ai point qualité pour découvrir.
Là-dessus, il prit congé.
Aurons-nous le plaisir de vous voir ce soir ? Demanda Madame Parmusif.
Je tâcherai de m'évader un moment, chère madame. Il n'est bruit depuis 8 jours que de votre réception. Je m'efforcerai d'y paraître.
Hélas, dit-elle plaintivement, je crains que ces événements ne lui fassent du tort.
En ce qui me concerne, je ne les déplore pas, répliqua le vétérinaire avec un rire suffisant.
Tranquillisez-vous, chère madame. Votre soirée sera très brillante.
L'opinion commune après son départ fut que M. Réminiscent était insupportable, mais qu'il fallait lui sourire puisqu'il était devenu brusquement l'arbitre des destinées de Libreville et des environs.
Chapitre 3. La soirée du gouverneur.
Toutefois, à la nuit tombante, une nouvelle beaucoup plus grave repoussa à l'arrière-plan des préoccupations publiques cette mystérieuse maladie des plantes et des animaux. Car l'épidémie venait de faire un bond. Elle s'attaquait à l'homme. À l'homme de couleur, heureusement. Une quantité de nègres perdirent soudain leurs poils et ce fut un concert discord de gémissements à travers la ville. Les sorciers adjurés vendirent force gris-gris, organisèrent des bamboulas sacrés dont les participants attendirent en vain les favorables effets. Aussi, le soir, quand l'élite de la société libre-villoise se réunit chez le lieutenant-gouverneur, l'unique sujet d'entretien fut-il la crainte de voir la maladie gagner les blancs. Et tout à coup, vers 10 heures, la terreur de constater que la race blanche se trouvait à son tour contaminée. Tandis, en effet, que par une nuit délicieusement étoilée, les invités écoutaient en dégustant des sirops glacés le ténor Caruso sous forme de phonographe, le capitaine de gendarmerie, qui coquetait avec la femme du receveur tout en se lissant la moustache, éprouva la sensation que cette moustache lui demeurait dans la main. Il en était d'ailleurs ainsi. Et ce brillant officier ne se trouvait pas la seule victime d'un aussi funeste accident. Au cours de cette mémorable soirée, l'épiderme de chaque invité commença de se dénuder à des degrés divers, mais chez tous appréciables. Monsieur Pitournat Mocquart, président du tribunal, qui causait littérature avec Madame Parmusif, vit tout à coup une touffe de sa belle barbe se détacher de son menton, s'éparpiller sur son gilet et le long de son pantalon. Quant à Madame Parmusif, en voulant extraire une épingle de l'édifice de sa coiffure, elle décolla en même temps, sans la moindre difficulté, une poignée de ses cheveux d'or. Celui-ci perdait les cils, celui-là un sourcil ou deux, cet autre tel poil du corps, et tous se rendaient bien compte qu'il importait peu que la maladie prît naissance ici chez l'un, là chez l'autre. L'expérience prouvait que cette pelade énigmatique deviendrait rapidement totale, et il apparaissait certain qu'à la chute des poils succéderait la période de descamation. Cette lamentable perspective bouleversa les cœurs les plus haut placés. Seul M. Parmusif, tout rasé d'habitude et chaud d'avant-pelade, conservait son sang-froid et interrogeait calme, comme il s'y est un chef, non plus le vétérinaire, devenu brusquement interne comparse, mais le docteur Columat, principal médecin de la ville. Celui-ci répondit, dans un groupe d'auditeurs enchaînés à ses lèvres, « Je n'y comprends rien du tout. Cette histoire de contagion par la mue des serpents est bien entendu du dernier grotesque. J'incline à penser que nous sommes les victimes d'une virulente dermatose, d'origine probablement parasitaire. Est-ce une lèpre, une infection du sang ? Est-ce une trypanosomiase ? Est-ce... » Un interlocuteur l'interrompit. C'était un capitaine de vaisseau retraité, naturaliste très distingué. « Excusez-moi, docteur, mais il convient de rappeler un fait dont l'oubli pourrait vicier toute hypothèse. Concurremment à la nôtre, une infection contagieuse ronge les plantes. Elle produit des effets parallèles. La lumière de ces lampes électriques suffit à vous montrer les ravages exercés. Les feuilles des arbres sont racornies comme brûlées. Ces plantes grasses, naguère si charnues, sont aplaties comme vidées. Et ces fleurs, hier vivantes, épanouies, agonisent à présent, fanées et mourront demain. Pourquoi ? Cette interruption ne fit qu'augmenter l'anxiété générale. Chacun pressentait maintenant qu'une même influence inconnue et néfaste s'acharnait, à travers le Gabon, sur deux règnes de la nature. « Et que concluez-vous, monsieur ? » dit le médecin au naturaliste. « Je conclus, docteur, qu'il ne s'agit pas ici d'une manifestation parasitaire. Et l'hypothèse que j'émets dépasse de beaucoup la vôtre en ampleur. J'estime que l'air du Gabon subit actuellement une modification chimique, que l'atmosphère où nous sommes tous plongés recèle je ne sais quel gaz nouveau qui, sans attenter à la vie elle-même, lèse toutefois les tissus vivants. À mon sens, on ne doit même pas parler de contagion. Un orage éclate, nous voilà tous mouillés. Cela suffit-il pour dire que la pluie est contagieuse ? Ah, mon Dieu ! Le naturaliste, en parlant, s'était frotté assez vigoureusement la joue et il venait de faire s'envoler par ce geste un de ses beaux favoris blancs. les poils aujourd'hui, dit-il avec tristesse. Demain, l'épiderme, le derme après-demain. Il se peut que, dans une semaine, ce gaz rongeur fasse de nous, gens et bêtes, de pitoyables écorchés vifs. Une femme s'évanouit. La réception prit fin sur des adieux lugubres. Nous, déclara le gouverneur, une fois seul, avec son secrétaire, télégraphions au ministre. La confection d'une dépêche explicite les fit veiller jusqu'au matin. Chapitre 4. L'Équateur pèle. Le lendemain, les citoyens circulant dans Libreville ne se reconnurent les uns les autres qu'au prix de grandes difficultés. Pour éviter l'aspect peu engageant d'un système pileux partiellement supprimé, les hommes s'étaient rasés la moustache et la barbe. Il semblait qu'une armée de comédiens eût, à l'exclusion de tous autres habitants, pris possession de la cité. Seuls, au milieu de la détresse publique, les perruquiers nageaient dans l'allégresse. Ils ne pouvaient suffire aux commandes et se montraient insolents, ce qui, pour les personnes nécessaires, sauf d'honorables exceptions, constitue la plus grande satisfaction du monde. Monsieur Parmesif, à 10 heures du matin, somnolait encore. Il était recru de fatigue. Il avait subi toute la nuit les lamentations de sa femme, déjà plus qu'à moitié chauve. Et la jeune Lotte, à son tour, perdait les boucles mordorées, orgueil soyeux de ses parents. Mais quand il eut négligemment ouvert et parcouru, d'un œil distrait d'abord, ensuite fasciné, une dépêche du ministère, il sauta hors du lit, revêtit son pyjama et s'élança vers son bureau, où l'attendait M. Saumêtre, glabre et poli comme un œuf.
Lisez, s'écria M. Parmesif.
Et M. Saumêtre lut. Même phénomène signalé, Congo, Afrique orientale anglaise, Singapour, Bornéo, Brésil, Colombie. Enquête internationale commencée. Cause épidémie encore inconnue. Maintenez population calme. Instructions seront télégraphiées dès que possible. Les deux hommes se regardèrent avec stupeur. Mais alors, s'exclama Parmesif, en faisant pivoter un petit globe terrestre, c'est tout l'équateur qui pèle. Monsieur Saumêtre, après réflexion, répondit : tout l'équateur pèle, en effet. Et ils s'abîmèrent dans la méditation. Ils se représentaient en effet la terre ceinturée en son degré zéro des peuples les plus disparates, mais égaux en effroi devant le commun péril. En même temps, ils estimaient que si l'hypothèse du médecin était fausse, celle du naturaliste était insuffisante, car il leur semblait impossible que l'atmosphère terrestre se trouva contaminée uniquement sur le pourtour correspondant à la plus grande circonférence du globe. Pourquoi là? Pourquoi pas ailleurs? Et d'autres nouvelles leur parvinrent, angoissantes. Des vaisseaux qui avaient navigué pendant quelques jours sous la ligne abordèrent au port avec un équipage et des passagers pelés. Il semblait même que le voyage maritime eût accentué les effets de la mystérieuse maladie. Certains voyageurs perdaient déjà leur peau, qui, chez les uns, s'effritait en poussière, chez les autres, se détachait par lambeaux. Leur désespoir parut s'atténuer quand ils apprirent que le même mal ravageait aussi les terriens. Et c'était bien de ravages qu'il s'agissait à présent. Car l'épidémie, qui s'était montrée d'abord en ses effets plus ridicules que dangereuses, revêtit bientôt un caractère manifeste de gravité.
Certains individus furent victimes d'affections ganglionnaires intenses. Beaucoup de travailleurs des champs subirent un affaiblissement de la vue et même des lésions de l'œil allant chez quelques-uns jusqu'à la cataracte. Chez un grand nombre, la rate semblait atteinte. Elle diminuait de volume, devenait d'une consistance mollasse et des phénomènes de dénutrition, de consommation rapide, se remarquèrent surtout chez les enfants. Plusieurs d'entre ceux-ci montraient des lésions profondes de la peau comparables à des brûlures, indolores et pourtant profondément destructrices des tissus. Quant à la végétation, elle évoquait celle d'un automne du Tibet après un été brûlant. Le feuillage roussi des arbres pendillait misérablement ou bien jonchait funèbrement la terre. Il semblait que, telle une dévorante écharpe, cousine démesurée de la tunique de Nessus, l'universelle maladie enveloppa l'équateur pelant. Et une intolérable angoisse consuma tous les habitants de la zone torride du globe. Chapitre 5. Le fléau gagne. Car l'équateur, siège initial de l'épidémie, ne constituait déjà plus que la minime partie des régions contaminées. Le fléau ne gagnait pas seulement en vigueur, mais encore en étendue, et faisait tache, implacablement dans chaque hémisphère, vers les zones tempérées. Un mois après son apparition, cette lèpre universelle encerclait tout l'anneau, compris entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Et ce n'était plus désormais un simple lieutenant-gouverneur. Ce n'étaient plus des fonctionnaires coloniaux qui s'agitaient, lançaient des pêches sur rapport aux autorités métropolitaines à présent. C'étaient les métropoles elles-mêmes, les grands États civilisés des zones tempérées de la planète, qui entrechangeaient des messages affolés. À présent, l'armée des savants se trouvait mobilisée. Cette fois, c'était à eux seuls, de sauver, s'il se pouvait, l'existence de l'humanité. Toutefois, cette armée ne se composait que de chefs, et du choc des hypothèses ne jaillissait que la discussion, aucune lumière. L'énigme, il est vrai, se compliquait encore, car le fléau, maintenant, exerçait de surcroît son influence sur les choses. C'est ainsi que dans toutes les régions atteintes, il était devenu impossible de faire de la photographie. Toutes les plaques, tous les films, les plus fraîchement sortis de leur boîte, se trouvaient d'avance voilés avant l'exposition au jour. Impossible, en outre, de faire fonctionner les appareils de télégraphie sans fil, tout au moins pendant la journée, car dès la nuit venue, la communication se rétablissait. Pourquoi ? Ce furent ces perturbations spéciales, plus inexplicables encore que les autres à l'esprit de la multitude, qui aiguillèrent dans un sens nouveau les recherches des savants. À cette époque, le Mexique, les États-Unis, le Maroc, l'Algérie, l'Arabie, l'Égypte, la Perse, l'Hindoustanie, le Tonkin, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord, tous les pays jusqu'au 30e degré de latitude, et les régions correspondantes jusqu'au même degré dans l'hémisphère sud, se trouvaient en proie au fléau dont chaque jour accroissait la violence. Dans les régions équatoriales, les décès se multipliaient, et l'aspect des hommes et des animaux au moment de la mort était le suivant. Épiderme complètement glabre, peau ulcérée dans les régions du corps les plus éloignées du sol, conjonctivite intense, blépharite, cataracte. Les plaies cutanées
ne manifestait aucune tendance à la régression. Des autopsies avaient été pratiquées. On s'était aperçu d'une anémie intense de tous les organes, de l'atrophie extrême de la rate, de la fonte des ganglions lymphatiques. Ainsi, d'une part, il y avait brûlure progressive et continue des tissus organiques, de l'autre, il y avait cessation, la nuit, de certaines perturbations magnétiques. La conclusion tirée de cet ensemble de faits, par plusieurs congrès de savants, fut que la cause initiale du fléau devait nécessairement être attribuée à la source de toute chaleur et de toute lumière, au soleil. Il devenait en effet de plus en plus probable qu'une activité solaire spécifique venait d'entrer en jeu. Mais laquelle? De tous les observatoires du monde, des lunettes se braquèrent sur l'astre. Rien d'anormal ne fut remarqué. Il sembla toutefois aux astronomes de Paris et d'Uppsala que les taches du soleil, généralement de couleur rouge sombre, avaient légèrement tourné vers le rouge sang. Mais elles n'avaient changé ni de forme, ni de nombre, ni d'étendue. D'ailleurs, leur influence sur les saisons, et notamment sur la température terrestre, demeurait toujours discutée. Les académies, en séance publique, dont des communiqués officiels répandirent les conclusions, déclarèrent que les taches du soleil ne pouvaient déterminer aucune maladie de la peau, non plus que de la cuticule des plantes. Cependant, le fléau poursuivait méthodique son inéluctable progression.